Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Radio Campus Lille le dimanche de 11h à midi. Du sport moto aujourd'hui au menu dans cette émission avec Claude Bonduel. Claude, bonjour.
Bonjour.
Claude, nous allons proposer aux auditeurs un petit coup d'œil dans le rétroviseur sur cette saison 2011 du championnat du monde de vitesse qui va se terminer dimanche prochain en Espagne sur le circuit de Valencia. Mais je pense qu'avant tout, on va revenir on va rendre hommage à Marco Simoncelli qui est décédé malheureusement dimanche dernier sur le circuit de Sepang en Malaisie.
Une chute au deuxième tour.
Un truc imprévisible. La sécurité sur le circuit
ça n'a rien à voir avec la
sécurité.
Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Je pense que un choc comme ça, ça peut arriver. Regarde, on se plaignait justement de l'année dernière de la mort de Tomizawa, percuté par deux motos. On disait 40 motos, c'est trop sur une piste. Ils étaient au septième tour. Ils étaient qu'à 4 à se battre. Et quand il est tombé juste devant les deux autres, et les deux autres l'ont percuté exactement de la même manière que là. Et là, il y avait quoi? Il y avait 16 motos. Mais ils étaient au deuxième tour. Donc ils étaient encore en paquet.
Alors c'est incroyable quand on regarde les images, on voit Simoncelli qui est pratiquement il est couché, il est par terre, mais il est encore accroché à sa moto.
Il s'accroche à sa moto.
Moi, j'ai l'impression qu'il avait un malaise.
Non, je pense simplement qu'il s'est accroché à sa moto, elle s'est couchée sans ruade et il a essayé de se maintenir. La seule chose, c'est quand tu couches une moto dans un virage, tu sais bien que tu continues le virage encore plus accentué.
Parce que là, s'il lâchait le guidon, la moto sur l'extérieur.
Je pense qu'il s'est accroché.
Ça terminait tout simplement par une grosse gamelle et puis c'est tout, quoi.
Voilà, c'est tout. Mais là,
c'est incroyable. On n'a jamais vu une moto reprendre de l'adhérence comme ça. Il traversait pratiquement toute la piste parce qu'il était carrément à l'extérieur, Claude.
Mais on l'a déjà vu. Mais le problème, c'est que ça se passe rarement au deuxième tour, ou alors c'est des sorties de piste. Mais là, c'était vraiment au deuxième tour. Ils étaient en paquet. Ils étaient dans une longue courbe. En Malaisie, il y a des grandes courbes très, très rapides avec deux grandes lignes droites. C'est un circuit quand même assez rapide. Et ils étaient à fond dedans, les deux autres, ils ont essayé de tourner plus, on le voit, ils essayent de balancer leur moto plus, mais dans une courbe à fond. Comment s'appelle Edwards et Rossi n'ont pas pu l'éviter, c'était pas possible.
Alors il y a une petite polémique là sur le casque qui s'est détaché, on a du mal à comprendre, enfin le choc a dû être assez effrayant et puis la lanière a dû, apparemment la lanière a dû casser.
Oui, arraché par la violence du choc, surtout.
Donc, il s'est retrouvé sans casque, en protection, sur la piste.
Mais c'était qu'à la fin, c'était après le choc. Quand on sait que, par exemple, la moto d'Edwards, à la fin du reportage sur Eurosport, ils l'ont dit, la roue avant de Colin Edwards était cassée. Elle s'est cassée où? À part sur le dos de Simoncelli. Voilà, donc, ça prouve le choc quand même assez important.
Voilà, bon, il faut avouer aussi qu'au début de saison, certains pilotes avaient un peu critiqué Simoncelli parce qu'il était un petit peu, tranchant dans les dépassements.
Bah oui, mais qui s'en plaindrait, je veux dire, pour le spectacle, on n'ose plus doubler parce qu'on risque d'accrocher.
Je crois que c'est Pedrosa ça lui a coûté cher, Pedrosa, un dépassement.
Ouais. Surtout que juste avant, il avait fait tomber aussi Lorenzo. Donc après la chute, il y a eu une polémique autour de lui, de Simoncelli, en disant qu'il doublait n'importe comment. Et je pense que c'est pas ça. C'est assez simplement la soif de victoire, quoi. Il avait envie de gagner. Il avait la moto pour et il se sentait capable. Ça veut dire qu'il a chuté aussi pour ça, Simoncelli. Mais justement, la chute de Pedrosa, quand on détecte bien, ils l'ont dit en direct, il y a autant de chances, autant de pourcentage de fautes à Pedrosa qu'à Simoncelli dans sa chute, parce que Pedrosa n'a pas coupé du tout, il a continué sur sa ligne en disant que Simoncelli allait freiner avant lui, quoi. Il n'a pas freiné, ils sont tombés, enfin ils sont partis.
Toujours, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube où au niveau les infirmiers sont un petit peu incompétents parce qu'on voit qu'ils le mettent sur une civière et ils le font tomber de la civière. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo.
Non, je n'ai pas vu.
Ce pauvre Simoncelli tombe de la civière. Ils sont obligés de le ramasser, de le remettre une fois sur la civière.
Je pense que c'était dans l'urgence. Ils ont, je pense, réalisé le traumatisme important. De toute façon, d'après ce que j'ai entendu après, Dans ce qu'ils ont dit, il était en arrêt cardiaque, hein, déjà sur la piste.
Son père, qui était à quelques mètres, c'est ce qu'il a précisé quand on lui a rapporté, effectivement, il a vu le corps tomber du brancard, mais d'après lui, il disait qu'il était déjà mort.
Ben oui, c'était l'importance, il fallait aller vite, les gens se sont un peu bousculés pour le mettre vite dans l'ambulance, parce qu'ils l'ont massé dans l'ambulance, hein, déjà. Il y avait un hématome très important autour de la masse cardiaque. Ils ont fait une ponction pour essayer d'évacuer cette ponction. Ils l'ont massé pendant 45 minutes, enfin essayé de le réanimer pendant 45
minutes. Voilà, Claude, j'ai proposé à notre amie Patricia et puis aussi Nounours de nous faire retracer un portrait un peu de la carrière de Marco donc durant cette émission, avec côté pilotage et puis côté Patricia...
Résumé des hommages.
Un hommage, hein, voilà. Et puis, normalement, au téléphone, nous allons avoir, à 11h30, hein, Herman, le président du motoclub Outland, qui organise le week-end prochain la 28e bourse d'échange et expo à Roselare. Donc, restez vigilants, car Herman nous offrira quelques entrées pour cette manifestation. Et pour terminer ce sommaire, je vous rappelle que la programmation est signée Laurent Rodier.
To love you, hug and kiss you and squeeze you, baby. Hug you, kiss you and tease you, baby. Hug you, kiss you and please you, baby. 'Cause I love to love you, love to love you.
Claude, je te propose, avant de parler de cette saison Grand Prix, de rendre un hommage donc à Marco Simoncelli et de notre ami Nounours, retracer
un peu sa carrière en Grand Prix. Donc, il est originaire de la même région d'Italie que Valentino Rossi. Et puis, il commence à 15 ans, très tôt, comme tous, hein, champion. Il commence à rouler avant de marcher, ces gens-là.
Ah non, il a commencé la compétition à 9 ans, en pocket bike.
Ouais, mais à 15 ans, c'est en Grand Prix. Grand Prix, voilà. Ouais.
Et tu sais que déjà, il s'affrontait avec Davizioso, déjà.
Qui a été aussi un champion au pocket
en
bike.
Fait, ils se sont affrontés pratiquement pendant 3-4 ans depuis petit.
Ouais. Donc il commence en 125 en 2002 chez Aprilia. Et puis donc en fin 2002, il est 33e au classement. Et puis 11e pour sa troisième saison en 2005. Donc une belle progression. Et au Grand Prix d'Espagne, il finit même 5e au classement général, 6 podiums durant toutes ces années-là. Et il rentre donc dans le top 5 du classement général et obtient un guidon chez Aprilia pour la saison suivante en catégorie supérieure. Donc en 250, il a toujours son objectif de gagner et de satisfaire au team, mais le contrat ne dure pas avec Aprilia. Donc il est obligé de changer d'écurie et donc continue en 2007, toujours en 250, mais avec une écurie de chez Gilera. Il perfectionne sa conduite, mais il est fougueux, comme tu le disais tout à l'heure, et donc il fait beaucoup de chutes, ce qui fait qu'il ne transforme pas sa fougue en résultat. Et il terminera qu'à la 10e place du classement général. En 2008, il obtient un titre de champion du monde en 250 au guidon d'une Gilera, toujours, et il termine la saison avec 6 victoires. La saison suivante, il échoue à la 3e place du classement parce qu'il a aussi beaucoup de chutes. Et pour la saison 2010, rejoint le championnat Moto Grand Prix pour une Honda du team Gresini Racing. Honda croit beaucoup en son potentiel, donc on lui fournit directement une moto d'usine, ce qui n'est pas habituel. Et puis il termine à la 8e place du classement général au championnat du monde des pilotes pour une excellente fin de saison. En 2011, donc, il confirme 2 pole positions et 2 podiums. 3e à Brno et 2e à Phillip Island, derrière Stoner. 6e au classement du championnat du monde des pilotes cette année avec la 17e épreuve, donc à égalité avec Valentino Rossi. Et puis, lors du deuxième tour, donc, comme vous le disiez, la course s'arrête là pour lui et Colin Edwards et Valentino Rossi ne peuvent pas l'éviter. Voilà pour la rétrospective rapide de sa carrière.
Alors Claude, on sentait bien que depuis quelques grands prix, il était toujours en première ligne ou deuxième ligne, mais on sentait qu'il pouvait gagner un grand prix.
Oui, je pense qu'au début de saison, s'il n'était pas passé tous ces accrochages, je pense qu'il aurait peut-être gagné un grand prix, oui, c'est possible. Avec la confiance aidant, mais bon, on va dire que c'est le petit plus... L'expérience peut-être aussi qui lui manquait un petit peu sur ses motos, puisque c'est quand même que la deuxième année. Faut voir. Avant la fin de l'année, je ne sais pas s'il aurait gagné, mais un podium, oui, sûr. Oui, c'est encore, sûr. Oui. Puisqu'il a battu plusieurs fois Davizioso.
Vous pouvez toujours nous appeler pour des places à gagner au Festiroc de Flin, donc sur le 03 20 912 400. On attend vos coups de téléphone, toujours des places à gagner, donc par paire, vous pouvez nous appeler pendant les morceaux de musique. Merci.
A woman ain't been double-crossed. You ever been under, all the way under, like I have, oh, like I have. Have you ever
what you've done. All for what you've done. Well, you should call me. Yeah, you better call me. 'Cause I'm another one. I'm another one. Well, I've torn the heart out of many a girl just to see why she loved me for. You ever been sorry, really sorry? What you done, what you done.
Magazine de la moto sur Radio Campus le dimanche de 11h à midi. Bon Claude, on va terminer avec Marco Simoncelli. Ces pilotes, on a toujours l'impression finalement de les connaître. J'ai l'impression que c'est des copains. Parce qu'à oui, force de les voir tous les dimanches, de les suivre, d'entendre parler d'eux. On a l'impression vraiment de dire oh, on est vraiment
ils commencent en plus courir de plus en plus jeunes quand même, hein, puisque Simoncelli, il y avait encore beaucoup à prouver, hein, il n'y avait que 24 ans.
Oui. Bah, Pat, beaucoup de monde a rendu hommage donc à Marco.
Oui, oui, tout à fait. Alors ce dimanche 23 octobre, de manière immédiate, le monde des deux roues et des sports mécaniques se trouve sous le choc. Hein, très vite, les déclarations se succèdent, comme tu le dis. Ainsi, celle de Dani Pedrosa. Alors lui, il était carrément sous le choc en disant que c'était terrible. Et il ajoutait qu'on oubliait trop souvent à quel point ce sport pouvait être dangereux. Et pour lui, lorsque je reprends ses paroles, hein, lorsqu'on perd quelqu'un comme ça, on a l'impression que tout perd son sens. Mais au-delà du choc, comme l'exprimait Giacomo Agostini, on se referme sur soi-même en pensant à un jeune homme qui a perdu la vie en aimant son sport. Alors de tous les commentaires se dégage le portrait d'un pilote d'exception qui, certes, comme l'évoque Agostini, était encore un enfant, comme tu disais, Claude.
24 ans,
une personne très agréable, mais était aussi, comme le résume son père, un guerrier. Hein, ce côté batailleur.
Ne jamais lâcher.
Ouais. Et son père aussi d'ajouter, c'est peut-être pour cela qu'il est mort. Donc il voulait gagner ce dimanche, mais son père le décrit comme fatigué, pressé de rentrer chez lui, parce que ça faisait longtemps qu'il en était éloigné, mais aussi déterminé donc à remporter une victoire, pour justement concrétiser tous les efforts qui étaient faits. Donc Sik apparaît comme un grand garçon solaire, extraverti, à la chevelure généreuse. Il était, comme le déclarait Rossi, aussi rugueux sur la piste que doux dans la vie. Donc son pilotage, comme tu le disais tout à l'heure, parfois qualifié d'agressif, voire de dangereux, mais était celui d'un passionné,
ouais.
D'un virtuose, qui, selon ses proches, commençait seulement à modérer ses ardeurs pour transformer ce don là pur en résultat concret. Donc, malgré son jeune âge, il était reconnu comme une personnalité forte du Grand Prix et il y incarnait surtout l'avenir pour l'Italie. Son corps, donc transporté à Coriano, a été installé dans une chapelle ardente, entouré d'une Gilera 250, celle de son sacre, et de sa Honda Gressini, pour un hommage d'une vive émotion qui a rassemblé 5000 personnes et encore beaucoup plus nombreuses lors de l'enterrement. Donc Fausto Gressini a annoncé que son équipe irait finalement à Valence, mais tout d'abord pour rendre hommage, toujours pour rendre hommage à Marco en disposant sa machine frappée du 58 dans le box. Son site officiel propose aussi, hein, en hommage, d'envoyer un message à l'adresse mail suivante ciao@58marcosimoncelli.it. Un bel hommage aussi, j'irais par chez nous, celui qu'a rendu notre ami Gilles Fagnin dans sa revue gratuite Moto News de novembre. Et si vous voulez retrouver la carrière de Marco en images, motorevue.com vous en propose une quarantaine avec aussi un bel article.
Bon, Claude, qu'est-ce qui rendait aussi attachant le pilote? On pouvait lui pardonner plein de choses finalement.
Mais c'est, je pense, c'est son exubérance un peu italienne, et aussi bien en dehors que sur la piste, je le connais pas comme ça, mais il nous a fait vibrer. Si les gens ont pu regarder la course il y a en 2009 en 250, où il était pas champion du monde, hein, il savait qu'il pouvait pas l'être, mais en Grand Prix d'Italie avec Pasini, dans le dernier tour, ils se sont doublés 9 fois sur la piste. Alors là, je pense que c'était le summum là, d'une course.
Oui, effectivement, en plus en MotoGP, ça devient un petit peu, on va dire, un petit peu triste. J'ai l'impression que les pilotes ont fait leur place, leur classement, et il n'y a plus trop de bagarres, on se double plus.
Quand même, je pense que si.
Et bah, par contre, il manque un peu de moto. Marco, lui, met un petit peu de piment là-dedans.
Oui, une certaine mesure, oui. Alors, oui, je pense que, vu en plus qu'on taxe en plus les pilotes qui doublent un peu n'importe comment, eh bien, fatalement, on n'ose plus, hein, vu aussi le prix des motos, une fois cassées, une fois. Ça peut ruiner une carrière aussi. Hein. Donc, she gave me fever. She's my tutti frutti. I love that child so. Watch me like a hound dog everywhere I go. Fanny goes around, I'm on my P's and Q's. Oh, she might step on my blues for shoes. But I honky tonk about her just the other night. Fanny got jealous and she started to fight. Cause I was dancing with Larry Lou. I had to call Jim Dandy to the rescue. Chalk Fat we'll be right back.
for my blue suede shoes and a honky-tonk party just overnight. Then it got jealous and she started to fight, 'cause I was dancing with Mary Lou. I had to call Jim Denny to the rescue. Jump that fanny is my heart's desire. Got the kind of love that sets my soul on fire. Jump that fanny, I love her so. I'll never let jump that fanny go.
C'est le magazine de la moto le dimanche de 11h à midi sur le 106,6 de Radio Campus. Au téléphone, nous avons Herman. Herman, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je précise que tu es le président du motoclub Outland.
Exactement, déjà depuis 28 ans déjà.
28 ans de présidence.
Oui.
C'est une dictature.
Oui. Pas vraiment.
C'est un plébiscite.
Finalement, tu es un dictateur de motoclub.
Oui.
Bon, alors, vous organisez donc le week-end prochain la 28e bourse d'échange et expo à Roselard.
Oui.
Hein? Donc, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, qu'il va y avoir quoi comme c'est le programme en fait. Ça se passe où, dans une salle extérieure, s'il y a d'exposition de motos.
Bon, alors l'exposition et la bourse se font dans une ancienne usine, une ancienne filature qui est transformée en salle d'événement. Donc, on est bien confortable, là c'est chauffé et tout comme il faut. Cette salle se trouve à Roselard, dans la Veldstraat, rue des Champs, si vous voulez. Veldstraat.
Oui.
Il y aura 1500 mètres carrés de bourse. Et à part de ça, donc, il y a une exposition de 46 motos. C'est-à-dire, c'est un assortiment de motos allemandes qui sont construites entre 1911 et 1974.
Oui.
Donc ça pour ce qui concerne ce qu'on va voir. L'entrée est 5 euros et comme j'ai dit, on donne quelques entrées gratuites, mais c'est peut-être une avant-première, ça c'est vous qui va expliquer ça.
Bon, alors dit Roselard, ça se situe par rapport à Lille, hein, on va faire le centre, on
par
va faire un cercle, c'est 40
kilomètres.
45 kilomètres, c'est pas très loin. Hein.
20 kilomètres de Menin, à loin.
Oui. Hein.
Donc on est tout près de la France, quoi.
Voilà, donc ça commence samedi matin, à quelle heure?
9h du matin jusqu'à 18h de l'après-midi.
Et dimanche également?
Pardon?
Et dimanche aussi?
Dimanche également, oui.
Hein, tout le week-end. Il y a possibilité de se restaurer aussi. Aussi de se désaltérer.
Nous avons un bar soigné et il y aura café, les bières belges.
Bon, je me doute bien.
Et pour nos amis francophones, nous aurons aussi un picon Outland.
Ouh là là là, ça c'est une spécialité donc Outland.
Mais il y aura aussi quelque chose à manger, donc des sandwichs, soupe, des trucs.
D'accord, si jamais il faisait très froid.
Oui.
Bah, à mon avis, il va faire très beau, en fait.
Oui.
Bon, donc, Herman, tu offres quelques entrées donc aux auditeurs de Radio Campus.
Exact, oui.
Hein bah, je vais rappeler le numéro de téléphone des studios ici, 03 20 91 24 00. Hein, et puis, on prend leur nom et puis on te communiquera les noms des personnes qui ont appelé.
Oui, qu'elle se présente à l'entrée.
Très bien.
Et on va la laisser passer gratuitement.
Eh bien, Herman, bon dimanche et puis surtout bon salon hein, pour le week-end prochain.
Peut-être pour les amateurs, un petit détail concernant l'exposition. La moto la plus ancienne, c'est une 1911 NSU, bicylindre en V, moto de course en
D'accord.
plus.
D'accord,
une 800 cm cube.
D'accord, très bien. Ça, c'est le... L'événement majeur, enfin l'exposition, c'est
oui,
la moto.
Mais il y aura aussi des Opel, Phoenix, Derad, Rupp, quoi encore, Hardy, BMW, Zundapp, etc., Bauer, Bismarck. Nous aurons 21 différentes marques allemandes.
Ah, c'est...
Voilà, voilà.
Écoute, à mon avis, nous on va venir toujours, hein, c'est sûr.
Oui.
Merci Herman.
Je vous en prie et bienvenue à tous les amateurs et visiteurs.
Eh bien, on sera là. Merci Herman. Bon dimanche.
Bon dimanche aussi. Au revoir.
Keep your hands off of my stack. Money is a hint. Don't give me that do-goody good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I'm
de la moto le dimanche de 11h à midi. Bon Claude, on revient un peu sur cette saison, donc un 18 Grand Prix, j'ai compté, ça fait beaucoup quand même, non ?
Ça fait quand même pas mal, ça s'étale plus qu'avant. Avant, ça se terminait fin août, dans l'anonymat complet, puisque de toute façon les journaux moto, ils paraissent pas en août, donc on savait rien de ce qui se passait, on savait qu'à la fin. Et que ça commençait trop tôt aussi, souvent. Moi je connais un Grand Prix qui avait été annulé en Autriche à cause de la neige, parce que ça se passait au mois de mars à Salzburg-Ring, et c'était vraiment dantesque, quoi.
Ceux qui faisaient le calendrier étaient un peu...
Oui, non, les premiers étaient début mars, donc pratiquement 15 jours après le Touquet. On sait le temps qu'il fait déjà au Touquet, dans des pays quand même où il peut vraiment faire des temps exécrables. Petit à petit, ça s'est reculé vers le fin mars, début avril, et puis... Maintenant, bon. 18 Grands Prix, ça fait quand même pas mal.
Il y a Nounours qui me fait signe. Attention, on n'appelait plus pour la bourse de Rosslar. C'est fini, toutes nos places sont parties. Claude, on se doutait un petit peu. Stoner favori, Stoner vainqueur.
Stoner a fait des essais formidables. Moi, j'avais mis en tête. Je me dis, là, il y a la confiance. Il y a tout. Il y a une moto qui lui plaît bien. Franchement, je voyais pas qui pouvait. Peut-être, justement, il a fait illusion Lorenzo. Je me suis dit, avec sa hargne, il va marquer la culotte. C'est ce qu'il a fait en début de saison. Mais franchement, les Honda, même Pedrosa ou autre, les Honda étaient quand même supérieurs aux Yamaha cette année. Alors, est-ce que c'est l'effet Rossi aussi, le départ de Rossi, qui a un peu laissé tomber Yamaha l'année dernière? On ne sait pas.
Alors, incroyable ce Lorenzo qui arrivait à faire gagner cette Ducati.
Non.
On a un problème de musique.
Non, pas Lorenzo.
Stoner, excuse-moi. C'est la musique qui m'a perdu.
Stoner qui
arrivait à faire gagner cette Ducati, alors qu'on voit notre pauvre Valentino Rossi qui peine.
Oui, mais il a fait la moto à sa mesure, hein, à sa façon de conduire. Mais faut pas oublier qu'il a chuté pas mal avec la Ducati l'année dernière déjà. Hein. Il a gagné sur certains grands prix, mais sur d'autres, il finissait 5-6e. Il n'arrivait pas à faire marcher la Ducati partout. Et cette année, on le voit bien. Hein, Rossi, parfois, il marche bien. Et il y a certains grands prix où il patauge complètement. Quoi, hein. Mais il a essayé de changer pas mal, trop de choses. Et comme les essais sont minima maintenant, ça fait quand même Rossi. Il a fait aussi illusion au début d'année. Hein. On y a cru avec un podium miracle. Après deux chutes devant, mais bon, il était sixième avec Simoncelli.
Finalement, il reste un Grand Prix dimanche prochain, donc Valencia. En Espagne, hein, à Valencia. Trois Honda dans les quatre premières places.
Ouais. Bah, de toute façon, les deux premiers, bon, Stoner, il est sûr, il est champion depuis deux Grands Prix. Lorenzo, il est deuxième, il peut plus être rejoint. Je me demande même avec ce qui s'est passé en Malaisie s'il va courir, puisque lui, il y a eu quand même un arrachement de la dernière phalange du petit doigt. Ça doit être assez douloureux et puis bon, un peu contraignant. Alors je ne sais pas s'il sera présent après 15 jours. Bon.
Et finalement, un peu déçu de Ben Spies qui a la moto de Valentino Rossi finalement.
Oui, mais la Yamaha, je pense qu'elle a évolué, mais pas dans un très très bon sens.
On voyait bien arriver l'Américain là et battre. Battre tous les pilotes d'entrée de jeu, parce que il faut rappeler quand même qu'il a gagné la première fois qu'il arrive en Europe, il a gagné la Superbike.
Oui, mais Superbike, c'est ce qu'il courait aux États-Unis aussi. Il a couru un peu dans les mêmes types de machines.
Donc il faut croire qu'entre le Superbike et le MotoGP, il y a quand même une marche, une grosse marche.
Il y a une grosse marche. Ouais. Ouais. On le voit avec beaucoup de pilotes. Hein. Il y a des pilotes qui réussissent et des pilotes qui ne réussissent pas. Hein.
Donc Rossi, ben malheureusement.
Ouais. Mais pour le dernier Grand Prix, il y a encore un suspense justement. Comme mon pronostic, moi j'avais placé Pedrosa en troisième position avant le début d'année. Pedrosa est quatrième, mais à 4 points de Dovizioso, et il court à Valencia à son Grand Prix national. Donc je pense qu'il y a des chances peut-être de gagner, puisque Stoner va gagner encore une fois, possible. Hein, vu le phénomène, ou alors, il y a aussi, oui.
Alors, et ce sera le dernier Grand Prix du plus vieux du paddock.
Ah oui, oui.
C'est Loris Capir aussi qui met fin à sa carrière.
325 départs, il a fait 325 départs en moto. Capir aussi se retire. Avec la Ducati qui marchait pas et le nombre de chutes cette année, hein, il s'est payé 4 chutes, à chaque fois un peu blessé. Je pense qu'il a acheté l'éponge suite à ça. Hein. Il était quand même, il avait 38 ans.
Oui, il a 38 ans aussi, Claude.
Trois titres de champion du monde. Hein, il y avait 29 victoires, 99 podiums. C'était quand même un sacré bonhomme.
Et pour terminer, doit-on parler de notre petit Français?
Cette année, c'est sa moins bonne saison. Oui. Cette année, il a pratiquement pas marqué de points sur les trois premiers Grands Prix après des chutes. Là, c'est une moto qui lui convenait pas du tout. Avoir passé toute sa carrière pratiquement en moto Grand Prix sur Honda, je pense que c'était le gouffre. De toute façon, quand on regarde tous les autres pilotes, il n'y a personne qui a vraiment réussi à faire marcher cette Ducati, à part Stoner.
Alors Hayden, Rossi, Randy Depugnier, ils se sont vraiment
cassé les dents
sur cette machine.
Ils sont en train de la revoir complètement. L'année prochaine, on verra bien s'ils réussissent. Mais bon... ça, je sais pas.
Voilà, très bien.
Tout dépend d'eux aussi.
Bon, on n'appelait plus pour la Roselard parce qu'il n'y a plus de place. Par contre, il reste quelques places pour le Festiroc fin novembre. Et vous faites le 06 11. Non, 03 20 91 24 00. Bon Claude, les Grands Prix MotoGP, c'est fait de toute façon, c'est que ce sera Stoner qui sera vainqueur, qui sera champion du monde 2011. Il l'est, de toute façon, il n'y a pas de problème.
Depuis chez lui. Hein,
mais par contre, en Moto2, c'est pas fait du tout.
Oh, c'est presque fait.
Il y a combien? Il y a 21 points de différence entre Bradle et Marquez.
Ouais. On peut dire Marquez le Magnifique, parce que c'est lui qui a gagné quand même 7 Grands Prix, pratiquement d'affilée. Après avoir chuté 4 fois sur les 6 premiers Grands Prix. Mais par contre, à chaque fois qu'il termine, c'est premier. C'est où il termine pas au début, on s'est dit où il termine premier. Hein. Mais je veux dire que ça va l'handicaper toute la saison. Par contre, il va rattraper Bradle petit à petit en gagnant. Bradle en terminant deuxième, troisième, quatrième. Mais Bradle marque des points à chaque fois. Et par contre, en fin de saison, je pense que Marquez peut-être est épuisé aussi. C'est la première saison qu'il fait en Moto 2. Il va péter un câble, quoi. Il va chuter deux fois. Il va même être pénalisé parce que après le dernier tour d'essai, il va continuer sa course et il va percuter un Japonais. Il va l'envoyer dans le décor en lui cassant le genou. Donc il va partir de la dernière ligne. Il va finir troisième quand même. Donc, en Australie, il va en faire trop. Il veut à tout prix la pole. Et pourtant, il l'a eu. Il la perd une fois avec Bradle. Et il l'a une deuxième fois et il chute. Et là, il se blesse très fort. Il n'arrive plus à trouver son équilibre. Il n'arrive même pas à marcher en repartant chez lui. Il passe et on décide de ne pas le faire courir. Et Bradle, là, va terminer deuxième. Mais il va marquer 20 points. Et comme il était repassé en tête à l'avant-dernier Grand Prix en terminant deuxième, ben il a quand même 23 points d'avance. On sait que le premier, c'est 25. Pour le dernier Grand Prix, il faudrait qu'il termine pas.
Il faudrait que Bradle...
Il tombe et que Marquez gagne.
Alors, c'est pas facile.
Non, c'est vraiment pas facile. Hein.
Donc, on peut dire que, sans trop s'avancer, que ce sera Bradle qui sera champion du monde en Moto2.
On peut dire, je pense que... Il y a juste une course où il n'a pas terminé, il est tombé, il est reparti et il a dû s'arrêter parce qu'il y avait trop de problèmes sur sa machine. Je veux dire, c'est le seul petit hic dans toute la saison, autrement il a marqué des points partout.
Bon, on va parler aussi des petits Français, Dimiglio aussi et puis Cluzel.
On peut en parler entre parenthèses parce que là, je crois que cette saison entre parenthèses...
Cluzel 19e et Dimiglio 25e.
Ouais. Cluzel a fait illusion.
Pourtant, des pilotes qui marchent très bien avec les motos de temps, il y a 3 ans. Hein, et là, apparemment, ils n'arrivent pas à
l'année dernière, Cluzel a fait.
À ces fameux Moto 2. Donc, on rappelle que c'était des moteurs 4 temps.
Ouais. A quand même gagné un Grand Prix l'année dernière. On s'attendait à une progression de Cluzel. Et puis, cette année, c'était une régression. Puis, il n'est pas monté une fois sur le podium. Il a terminé une fois 4e. Mais autrement, il a marqué quelques petits points, mais il a surtout chuté beaucoup.
Il a chuté 8 fois sur 18 Grands Prix.
Et encore, aux essais aussi, en essayant de faire plus. Dès que le mi-Grand Prix passait, il sentait plus ses pneus et il s'enflammait et il tombait. Je sais pas, là, il y a quelque chose à revoir.
Alors, Dimiglio, c'est pareil, il a marqué, il a marqué 7 points au Portugal. Après, il a chuté, ou on ne sait pas s'il a cassé, mais enfin, il a pas terminé la course. Et puis, 1 point en République tchèque, 4 en Aragon, et puis après, c'est terminé, il chute.
C'est vraiment Dimiglio, c'est comme l'année dernière. Il y a des grands prix qui lui vont à peu près bien. C'est les mêmes grands prix où il a réussi l'année dernière. On peut regarder, c'est pratiquement ça. Hein. Il y a Philippe Island, et puis il y en a un autre des grands prix où il avait gagné en 125. Où il se sent bien avec cette moto, autrement il la sent pas. Hein. Le 4 temps, c'est pas son truc, hein. Malheureusement. Je crois que l'année prochaine, je sais pas où il va. Là, il est marqué nulle part dans des bonnes écuries, donc Dimiglio, je sais pas si on le reverra.
Why don't you tell me?
Bon, vous n'appelez plus pour les places pour ce 28e salon de la Bourse à Roselard qui aura lieu le week-end prochain parce qu'il n'y en a plus. Par contre, il nous reste quelques petites places, pas beaucoup petites, je ne sais pas, il reste des places pour le Festirock.
Pour deux personnes, quelle que soit leur taille.
Pour deux personnes. Pourquoi je dis petite ?
Voilà. Oui, encore des places à gagner pour le Festirock pour tous les ans.
03 20 91 24 00. Voilà, il faut en profiter, hein, c'est super pour aller voir le chanteur, le guitariste
Matrache,
du groupe Socrate.
Voilà.
Claude, on termine avec la 5-5. Et là, peut-être. Alors là, c'est pareil. Il faudrait que le premier, qui est
Terrol,
chute et que notre petit Français qui est deuxième.
Il faut qu'il gagne.
Il y a 21 points d'écart aussi. Il faut qu'il gagne.
20 points d'écart.
Il faut. Alors là, c'est pas fait non plus. Mais bon.
Mais il faut.
On va pas souhaiter que Terrol chute.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il prendra beaucoup de risques vu la fin de saison qu'il a eu. Le Français l'a dominé dans les quatre derniers Grands Prix à chaque fois, et donc je pense pas qu'il prendra beaucoup de risques là. Il faut qu'il termine dans les cinq premiers, c'est très très bien. Je pense qu'il est largement capable, même de gagner. C'est quand même chez lui,
Oui, en plus c'est en Espagne.
Oui, c'est en Espagne.
Écoute, un Français sur la deuxième marche du podium.
Ah, mais il nous a régalé. Cette année, franchement, il nous a vraiment régalé. Il m'a étonné aussi. Je m'attendais pas, vu le deux premiers Grands Prix, c'était moyen. Il finissait très bien. Il y avait une bonne moto puisqu'il y avait c'était le même team que le champion du monde l'année dernière. Donc là, il devait faire quelque chose. Et il a fait quelque chose vraiment formidable, puisqu'il aurait dû gagner même trois fois. Faut pas oublier qu'il a été déclassé quand qu'il s'est tapé un petit peu avec Terrol dans le dernier virage. Donc il a été déclassé parce que, en plus, c'était en Espagne, pousser Terrol dans le gazon, ça allait pas. Donc il a été déclassé. Ensuite, il a été premier ex aequo avec Fobel, un autre espagnol. Et c'est pareil, Fobel avait fait le meilleur tour. Donc c'est lui qui a été déclaré vainqueur.
Bon, tu voulais parler d'un pilote espagnol un peu
Vinales. J'en avais parlé avant le début de saison, en disant qu'il était.
Je m'en souviens.
Tu vois, et il est quatrième en bataille avec Cortese pour la troisième place. Là aussi, meilleur rookie de l'année, largement, avec trois victoires en Grand Prix.
Bon, 125 l'année prochaine, c'est terminé.
Ah oui, c'était la dernière saison des deux temps. En Grand Prix.
On va retrouver des moteurs 4 temps. Alors, je sais pas comment.
Monocylindres 4 temps. Mais pas comme les motos 2.
Multimarque.
Il y a déjà 3 marques en lice. Je sais qu'il y a Aprilia, déjà, qui va fournir un moteur 4 temps. Après, les autres marques, je ne sais pas. Là, j'avoue qu'il y a des hauts. On en parle, après, on n'est pas sûr. Et qui vont vendre des moteurs à des châssis particuliers. Voilà, c'est ça.
Alors ça, c'est pareil, ça va être des pilotes qui vont peut-être pas pouvoir s'adapter, un petit peu comme Dimiglio.
Hein, mais oui, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Hein,
ils sont, qui étaient très bons sur des moteurs de temps. Hein, et,
tout à fait.
Et qui finalement n'ont jamais su s'adapter aux
des jeunes qui ont fait tout leur carrière sur des deux temps. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire sur les quatre temps.
Le point d'interrogation.
Tout à fait. Là, on peut pas prévoir l'année prochaine, ça sera un grand bouleversement. Puis on ne sait jamais, un moteur peut dominer les autres aussi. Même si le type de moteur, ça sera bien caractéristique.
Oui, par contre, il y a aussi ce...
Voilà, ça sera quand même différentes
marques. Ce paramètre, c'est que là, c'est multimarque.
C'est pas les motos 2.
Et hein. Voilà, d'accord. Ça sera il faut parler vite fait du changement en MotoGP l'année prochaine. Parce que c'est vrai que
l'arrivée des 1000 libres avec des moteurs tirés d'acierie, un petit peu comme ce qui se passe, dans les Superbikes. Hein, ça sera les mêmes types de moteurs, un peu plus libres qu'en Superbike. Et justement, les superbikes vont peut-être diminuer justement cet écart, ouais, parce qu'ils vont revenir à des moteurs plus super stock.
Ça, c'est fait pour étoffer un peu le plateau, hein, parce que quand on voit le départ de MotoGP,
il y a eu à un moment donné 14 motos suite aux deux défections.
Ça fait maigre.
Ça fait maigre, très maigre. Ouais.
Bon, quand on voit le Moto 2 un départ Moto 2, alors là, c'est l'inverse, 40 machines, et les MotoGP, il y a que 14 machines.
Il y en a qui ont peur aussi des 1000, justement, avec des moteurs dérivés, c'est que ça va être limité au niveau. Ça veut dire qu'ils vont être derrière les motos d'usine, quoi.
D'accord, très bien. Bah, Claude, l'émission se termine. Bon, on est un petit peu, aujourd'hui, un peu spécial. Hein. On a eu des petits problèmes techniques. On espère te retrouver d'ici l'année prochaine, certainement en début de saison.
Peut-être
Puis, on va se faire une petite émission, donc moto japonaise.
Ouais, voilà. C'est ça.
Merci Patricia, merci Nounours. Et merci Laurent. Passez un bon dimanche et on se retrouve forcément dimanche prochain, 11h. Rendez-vous sur Campus 106,6. Au revoir.
Au revoir.